Bonjour tout le monde. Nous continuons donc ce voyage à travers ces nouveaux cofacteurs métalliques que j'essaye de vous faire découvrir, des résultats donc récents avec des découvertes donc de systèmes enzymatiques qui comportent des cofacteurs métalliques étonnants, nouveaux, et qui évidemment demandent toujours plus de caractérisation. Et bon, je ne vais pas très vite, je pensais avoir fini sur les cofacteurs organométalliques, et je voudrais parler encore d'un autre exemple. Donc à nouveau, quand je parle de cofacteurs organométalliques, je parle de ces systèmes que j'ai déjà présentés. C'est une DIA que j'ai présentée la dernière fois, à laquelle j'ai rajouté ce site métallique que j'ai détaillé, qui est le site métallique d'une hydrogénase à fer. Donc, organométallique, c'est-à-dire qui implique, pour simplifier, des liaisons métal-carbone. Et donc, voilà un certain nombre d'exemples, je n'y reviens pas. Ceux qui n'ont pas assisté au cours précédent peuvent y revenir. Et ceci était donc le dernier exemple d'un nouveau cofacteur organométallique qui a été découvert dans une protéine, dans une enzyme, avec, vous voyez, ces liaisons fer-carbonyle et fer carbone d'un groupement formyl ici sur ce ligand pyridinol. Une découverte tout à fait intéressante et récente aussi, c'est un cofacteur à base de nickel qui a été découvert, vous voyez, il y a quelques années, en 2015. C'est un cofacteur qui appartient à une enzyme qui s'appelle la lactate racémase, LARA, qui catalyse, vous voyez, cette réaction d'interconversion entre un isomère L et un isomère D du lactate. C'est assez intéressant de voir que cet exemple où un cofacteur nouveau, organométallique, a été en particulier découvert grâce notamment à une combinaison de méthodes spectroscopiques, cristallographiques, et très spécifiquement lorsque cette protéine a été cristallisée, une densité électronique est apparue dans le site actif. Et vous voyez, à partir d'une densité électronique, hein, construire une structure moléculaire, ce n'est pas évident. C'est pourtant ce qui a été fait dans ce travail, vous voyez, qui a été publié dans Science en 2015. Évidemment, il n'y a pas que la densité électronique, parce que vous comprenez bien qu'on peut y mettre des tas de choses dedans. Mais il y a eu aussi un très gros travail de spectrométrie de masse. Et en tout cas, le résultat, c'est que dans cette enzyme, on a ce cofacteur tout à fait particulier avec un ligand qui est un pyridinium, vous voyez, mononucléotide, qui a deux fonctions soufrées, un thiocarboxylate et un thioacétamide, parce que ici, vous avez un lien avec la protéine grâce à une lysine. Vous voyez, cette lysine 184, ici, qui crée un lien avec le ligand organique pour faire à travers ce lien thioacétamide. Et l'atome métallique est un atome de nickel. Il n'y a pas énormément de métallo-enzymes à nickel. Il y en a quelques-unes, la plus connue étant l'uréase, mais vous avez vu qu'il y a des hydrogénases qui contiennent des atomes de nickel. Il y a des CO des hydrogénases qui contiennent des atomes de nickel, mais disons qu'il n'y a pas un très grand nombre d'enzymes à nickel. En voilà donc une nouvelle. Et vous avez donc, voilà pourquoi on définit ce cofacteur comme un cofacteur organométallique, parce que vous avez une liaison nickel-carbone avec ce groupement phényl. Voilà, on va appeler ce cofacteur NPN, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis dans la littérature, nickel pincer nucleotide. Alors, pincer, parce que, vous voyez, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce type de ligand tridentate qui accroche le métal par cette pince. Hein, c'est une sorte de pince, hein, vous voyez ici. Eh bien, c'est un mode de coordination qui est assez connu en chimie, et vous allez voir ça tout à l'heure. À partir de là, on peut comprendre la chimie de ces systèmes. Et ce qui est très très important, c'est, ça a été montré aussi par mutagénèse dirigée, c'est l'importance de deux histidines, vous voyez, qui sont très proches du cofacteur métallique. À nouveau, vous voyez la lysine qui accroche le ligand organique. Vous voyez, cette histidine 174, ici, et l'histidine 108. Donc, vous voyez, le cofacteur est entre ces deux histidines qui vont jouer un rôle dans le mécanisme enzymatique. Alors, il y a plusieurs... il y a des discussions sur la façon dont le mécanisme est mis en œuvre. Vous voyez, lorsque vous avez un pyridinium ici, ça fait penser un peu à la chimie du NADH ou du NADPH qui participe à des transferts d'hydrure, et c'est effectivement ce qui est proposé ici, où vous avez une histidine qui arrache un proton du lactate et vous avez un départ d'un hydrure. Donc, premier mécanisme qui est proposé, la driving force, c'est le fait que vous avez un groupe pyridinium qui est très attracteur d'électrons. Donc l'hydrure attaque ce carbone et par délocalisation, vous avez la formation, enfin vous avez neutralisation de cette charge et vous avez une sorte d'intermédiaire ici où ce carbone devient sp3 et en maintenant la liaison avec le nickel. Et ensuite, cette hydrure qui, vous voyez, qui était partie sur la partie gauche de la molécule, attaque sur la partie droite avec l'assistance d'un proton qui est fourni par l'histidine qui est de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est pas de la chimie très très compliquée, mais c'est un mécanisme. Bon, il y a beaucoup de débats, et en particulier, vous voyez, c'est des choses récentes là aussi, il est possible que le nickel intervienne comme site de fixation de l'hydrure à travers un mécanisme qui ressemble un peu à ça, déprotonation et départ de l'hydrure, mais qui vient se fixer sur l'atome de nickel, moyennant que ici on ait une liaison nickel-histidine. Oui, j'ai oublié de mentionner que vous avez une troisième histidine qui joue un rôle très important, puisque c'est un ligand. C'est le quatrième ligand du nickel. Et une fois que vous avez cette hydrure, également assistée par le retour de l'histidine, vous avez le même mécanisme d'attaque de l'hydrure de l'autre côté de l'acétone et vous faites l'isomérisation du substrat. Voilà. Comme vous l'avez vu, et j'essaye de le montrer le plus souvent, c'est que chaque fois qu'on découvre un nouveau cofacteur métallique, arrive une nouvelle question qui est comment est synthétisé ce cofacteur métallique. Et ça, c'est aussi une question clé de toute la chimie bio-inorganique, c'est la biosynthèse des cofacteurs métalliques qui implique à la fois des synthèses organiques, parce que les ligands sont nouveaux, donc évidemment, il y a toute une série de gènes qui sont impliqués dans la biosynthèse du ligand, et par ailleurs, évidemment, toute la question du métabolisme du métal, puisque à un moment donné, il faut que l'atome métallique soit délivré spécifiquement à la cible protéique, et ceci passe le plus souvent, c'est des choses qui sont encore assez mal connues, ceci passe le plus souvent par un système protéique qui spécifiquement collecte l'atome métallique et le délivre spécifiquement à la cible. Bon, ça, vous voyez, là aussi, à travers une suite de travaux qui se sont étalés durant les dernières années, la question de la biosynthèse du cofacteur métallique NPN n'est pas encore très bien comprise. Mais ce qui est établi, c'est que le précurseur du cofacteur, c'est cette molécule, NAAD, nicotinique acide adénine dinucléotide. Vous voyez ici apparaître le nucléotide, le pyridinium, et vous avez une fonction carboxylate. Vous avez une première enzyme qui fait une carboxylation de ce noyau aromatique. Et ensuite, vous avez un système enzymatique qui s'appelle LAR-E, qui introduit des atomes de soufre sous la forme de thiocarboxylate. Entre-temps, ici, vous êtes aperçu qu'il y a une hydrolyse ici de cette adénine dinucléotide pour laisser ce nucléotide-là. Une fois que vous avez cette sulfuration, eh bien, vous avez l'introduction de l'atome de nickel par cette protéine, LAR-C. Donc vous avez, de façon intermédiaire, ce cofacteur NPN qui est ensuite introduit dans la protéine. Juste un mot pour dire que j'ai déjà fait cette remarque à plusieurs reprises. C'est toujours assez intéressant et fascinant de découvrir des systèmes enzymatiques, des nouveaux cofacteurs, et de s'apercevoir que les chimistes en avaient fait la synthèse et les avaient étudiés bien avant. La dernière fois, j'avais parlé d'un cluster fer-soufre, je crois que c'était un 8-fer-9-soufre. Richard Holm avait synthétisé 20 ans avant et qui est présent dans une protéine. Ici, c'est exactement le cas, c'est-à-dire que vous voyez cette chimie des complexes pincer métalliques, elle est connue depuis très très longtemps. Je vous invite, vous voyez ici, il y a eu un article de revue sur la chimie de ces complexes-là, et Bob Crabtree est un des grands noms de ce domaine. Vous voyez qu'il y a une très grande quantité de complexes qui ont été étudiés à travers toutes sortes de structures. Ici, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, avec une structure de ce type-là, vous avez un très grand nombre de possibilités de modifier la structure électronique et les propriétés stériques du ligand, de sorte que vous pouvez contrôler la réactivité du catalyseur. Enfin, je dis du catalyseur parce que le plus souvent, ces complexes sont utilisés pour faire de la catalyse. Donc, vous voyez que vous pouvez agir sur cet atome X. Le plus souvent, c'est du carbone. Là, on est dans la partie organométallique. Ça peut être un azote, c'est-à-dire une pyridine. Ici, vous pouvez y mettre un peu tout ce que vous voulez. Vous allez évidemment agir sur les propriétés électroniques de ce ligand. Là aussi, vous avez la possibilité de faire tout un tas de choses avec des bras plus ou moins longs, avec des hétéroatomes, vous voyez, des atomes d'oxygène ou d'azote. Et puis là, évidemment, il vous faut des atomes qui coordinnent le métal. Ça peut être, vous voyez, du phosphore, de l'azote, de l'oxygène. Et vous voyez que dans l'enzyme, c'est du soufre. Donc il y a tout un tas de possibilités. Et voilà, toutes les molécules, enfin, toutes ces structures-là, je ne rentre pas dans le détail, mais avec toutes sortes de combinaisons que, d'ailleurs, vous trouverez dans cet article de revue. Oui, donc, vous voyez ici, juste c'est un exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples d'un complexe hydrure d'iridium ici, qui est pincer, qui est capable de catalyser des réactions de déshydrogénation ou d'hydrogénation. C'est des choses assez classiques dans cette chimie-là. Mais il y a évidemment beaucoup de choses qui sont développées avec ce type de ligand. Bon, enfin, voilà, c'est intéressant de voir que la nature a aussi compris l'intérêt de ces ligands-là, et voilà donc un cas d'un ligand pincer dans un système enzymatique. À partir de là, très très récemment, vous voyez donc la découverte et la compréhension du NPN chez la lactatracémase, c'est entre 2015 et 2018, et immédiatement, c'est une démarche que j'ai beaucoup développé dans mes cours, c'est cette démarche de chimie bio-inspirée. Et en effet, vous pouvez, voyez, dans des articles extrêmement récents, et le plus récent étant cet article en 2019, où les auteurs ont essayé, bien sûr, vous reconnaissez tout de suite, de synthétiser une molécule qui ressemble au cofacteur métallique dans la lactatracémase, avec des ligands thiocarboxylates, avec ce pyridinium. Et évidemment, c'est un modèle structural qui est plus proche que ce qui avait été fait en 2017, qui était une première approche. Mais il n'y avait pas d'activité racémase. Et dans ce cas-là, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est publié dans ce travail, c'est la démonstration que ce type de structure en effet, est assez doué, disons, pour faire de la racémisation de lactate, d'hydroxyacide. Bon, vous retrouverez les résultats dans cet article. Et donc, voilà, ce type de structure a été choisi par la nature pour faire ces réactions de racémisation. L'intérêt, et je termine là-dessus, l'intérêt d'un système biomimétique, hein, vous le savez, la démarche, hein, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire que le système enzymatique et la connaissance du système enzymatique, oh, je redis des choses que j'ai dites mille fois, mais tant pis, la connaissance d'un système enzymatique permet de proposer aux chimistes des voies de conception et de synthèse de nouvelles molécules par bio-inspiration, mais à l'inverse, l'outil moléculaire simple, synthétique, permet aussi de comprendre, par exemple, un certain nombre de choses en termes de mécanismes. Et c'est ce qui est fait ici à travers des travaux expérimentaux et également théoriques qui ont ici pu montrer que, vous voyez, si on compare un mécanisme ici où l'hydrure attaque le carbone qui est fixé sur le nickel ou à un processus dans lequel l'hydrure vient sur le nickel, vous vous souvenez donc de cette discussion mécanistique entre les deux possibilités, grâce à ce petit modèle et à des calculs théoriques, on montre qu'il y a une très très grosse différence entre le chemin, vous voyez, C1, C2, C3, TS, voilà celui-là, et le chemin à partir du nickel hydrure, C5, C6. Vous voyez, ici. Donc celui-là est très... à des énergies très supérieures. De sorte que, voilà, ici, évidemment, c'est une façon de proposer que ce qui est plus favorable, c'est un mécanisme à travers l'hydrure qui attaque sur le carbone. Voilà le type de chimie qui peut être développée. Dernière chose dans ce domaine-là dont je voudrais parler. J'ai déjà montré cette image, et comme vous le voyez, la conclusion qu'on en tire, c'est que la chimie bio-inorganique se limite à un certain nombre de métaux. Le vivant a choisi un certain nombre de métaux seulement, et j'ai expliqué lors de mon premier cours quelle était finalement la base rationnelle de ce choix. Et vous voyez qu'on a les alcalins, alcalino-terreux, on a un certain métaux de la couche 3D ici, c'est ceux-là qui sont le plus souvent utilisés. On a du molybdène, on a du tungstène, et puis tout le reste n'est pas utilisé. Ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est de la découverte qu'il y a, que la nature a aussi développé des catalyseurs à base de lanthanides. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant, inattendu, mais ce sont des découvertes récentes. Bon, je ne sais pas pourquoi on a pensé que ça n'était pas possible, parce qu'il faut bien voir que des lanthanides, il y en a dans la croûte terrestre, beaucoup plus qu'on ne pense en général. Hein, et en effet, comme vous vous souvenez, le critère d'abondance est quand même très très important, c'est-à-dire qu'un système vivant, il commence par regarder ce qui est à sa disposition en termes de quantité avant d'aller chercher des choses beaucoup plus rares. Donc c'est pas si étonnant aujourd'hui, bien sûr c'est facile de dire ça, mais pendant très longtemps, évidemment, personne n'a regardé de ce côté-là. Juste quelques mots, enfin là, c'est des histoires de textbook, hein, vous allez voir ça dans les bouquins de chimie, mais juste vous rappeler un peu de quoi on parle. Bon, on s'aperçoit que finalement, les plus abondants, ce sont les quatre premiers ici. Donc lanthane, cérium, praséodymium et néodymium. Voilà, ceux-là sont les plus abondants, vous voyez, 70 ppm dans la croûte terrestre, c'est pas si mal. Les autres, plus on remplit les couches 4F, hein, et moins c'est abondant, mais on trouve des organismes qui utilisent certains de ces métaux un peu moins abondants. Donc, rappelez-vous simplement, c'est une chimie qu'on connaît en général assez peu, la configuration électronique de tous ces ions métalliques, c'est une couche 4F incomplètement remplie. Alors, une première remarque, c'est que au niveau du métal lui-même, hein, le métal est un
Et ce sont en général des métaux très réducteurs, donc avec des potentiels très négatifs. Et donc, ils n'existent pas sous forme métallique, hein, en gros, dans l'atmosphère oxygénée terrestre. Ils existent sous forme d'ions. Et donc, je ne parlerai plus de métal. Chaque fois que je parlerai de lanthanide, je parlerai d'ions. Et comme je l'ai dit, ce sont des métaux plus abondants qu'on ne le pense. Le cérium est le 26e élément dans la liste d'abondance, ce qui n'est pas si mal. Voilà, alors, la chimie en solution, c'est des ions plus 3. Voilà. Ce sont des ions trivalents, les plus stables. Et simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. L'effet des électrons F sur le noyau est très faible, de sorte que, en fonction du nombre d'électrons que vous avez sur cette couche F, vous n'avez pas beaucoup de différence. Les électrons F impactent très peu les propriétés chimiques. De sorte que les ions dont on parle, c'est d'abord des ions durs. C'est-à-dire que ce sont des ions qui aiment un environnement chargé négativement, oxygéné, et donc on verra souvent des ligands oxygène. Ce sont des très bons acides de Lewis, par leur charge en particulier, et ce sont des ions de très faible solubilité, donc on les trouve sous forme d'hydroxyde, de carbonate, de phosphate, enfin, etc., etc. Une autre chose, à cause de, et ça c'est très très important, c'est ce qui fait une des caractéristiques de la chimie de coordination des lanthanides, c'est le fait qu'en raison de cet effet faible de la couche 4F, il n'y a pas de champ de ligand. Et donc, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné, il y a une limite stérique, hein, mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez comme ligand. Donc, ce sont des complexes dans lesquels on a des nombres de coordination qui peuvent être très, très élevés. Et vous pouvez, au cours d'une réaction, enlever un ligand rajouté sans que ça change beaucoup l'énergie du système. Donc, ce sont des ions qui ont une très grande flexibilité de coordination, une très grande labilité. Et ça, du point de vue de la catalyse, d'une certaine façon, c'est assez intéressant, puisque la catalyse consiste assez souvent à, lorsque c'est, ça implique des complexes de chimie de coordination, à enlever des ligands pour mettre un substrat, et puis enlever un produit qui est remplacé par un ligand, enfin, etc. Donc tout ça est assez aisé dans le cas de ces complexes de lanthanides. Donc, c'est quand même une chimie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de, et que j'ai eu l'habitude de discuter avec le fer, le zinc, le cuivre, qui ont des règles de coordination beaucoup plus strictes. Donc là, plus grande liberté. Et donc, vous allez voir, le plus souvent, on a un très grand nombre de coordinations. Voilà. Les lanthanides, pour terminer cette présentation très générale, les lanthanides, ce sont des composés qui sont très très étudiés aujourd'hui parce que ces ions et les matériaux avec des lanthanides ont des propriétés très très intéressantes du point de vue magnétique, du point de vue de la luminescence. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion hier de regarder, il y avait une émission sur Arte sur le problème des énergies vertes et qui était très axée sur métaux et éoliennes, photovoltaïques, voitures électriques, etc. Et bah, vous avez déjà entendu ça, la question des terres rares et la question des limitations aux ressources métalliques, etc. Mais en effet, dans cette famille-là, il y a énormément d'éléments qui sont de plus en plus utilisés. Et en effet, il y a certains de ces éléments qui sont absolument indispensables au développement des éoliennes, notamment dans les aimants permanents, absolument essentiel au développement de la voiture électrique, parce qu'il y en a dans des batteries, et puis il y a toutes sortes d'applications. Et il y a plusieurs problèmes, d'une manière générale, c'est que d'une part, il n'y en a pas partout, donc là aussi, il y a une contrainte extrêmement forte, et dans cette émission hier, on indiquait les pays qui étaient riches en ces éléments, la Chine en particulier, mais pas que la Chine. Et donc, pour ceux qui développent ces technologies, voitures électriques, éoliennes, etc., et qui n'ont pas ces éléments, évidemment, il y a création d'une nouvelle dépendance. On sort d'une dépendance peut-être du pétrole pour arriver sur une dépendance. Voilà. Par ailleurs, ce sont des éléments qui posent tout un tas de problèmes dans l'industrie minière, dans le recyclage et dans la récupération. Et ça, vous comprenez très bien pourquoi. À nouveau, bon, il n'y en a pas de très très grosses quantités, ils sont difficiles à extraire, mais surtout, ils sont difficiles à séparer et à purifier. En raison, à nouveau, du fait que lorsque vous avez des mélanges de lanthanides, ils ont des. Si on les compare les uns aux autres, ils ont des différences de rayons ioniques et des différences d'affinité de ligands, à nouveau, parce qu'il n'y a pas de champ de ligands, qui font que c'est très difficile de mettre en place les technologies de séparation et de purification. Donc là, il y a un vrai sujet. Ça intéresse l'industrie nucléaire depuis très longtemps. Voilà, il y a beaucoup de travaux sur cette question de purification, séparation des lanthanides. Voilà, et le résultat est le suivant, c'est que dans des organismes, notamment... Le premier résultat, vous voyez, bon, c'est un peu plus ancien, mais c'est 2014. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on isole à partir d'une bactérie, celle-ci, Methyloacidophyllum fumarolicum. Donc c'est un méthylotrophe, c'est-à-dire c'est un organisme qui a besoin d'une source de carbone de type méthane. On sait un. Découverte dans des boues volcaniques à pH très acide et pour lesquelles les chercheurs ont démontré la présence, en assez grosse quantité, de lanthanide, et notamment du cérium et du lanthane. Non seulement ceci, mais ce qui est montré ici, c'est que la croissance de cet organisme dépend de la présence de cérium. Vous voyez ici un temps de croissance et en fonction de la quantité de cérium, cette croissance est de plus en plus rapide. Donc ça, c'est la première découverte qu'un organisme a besoin d'un lanthanide pour pousser. Assez extraordinaire. Et ce qui a été montré dans le même temps, peut-être il y en a d'autres à nouveau, mais c'est l'isolement et la caractérisation d'une enzyme qui est clé dans le processus de récupération du carbone, dans une étape qui est une réduction du méthanol en formaldéhyde, c'est la méthanol déshydrogénase. Dans la littérature, vous le trouverez sous le nom de MDH ou XOXF. Et voilà la structure aux rayons X, voilà le site actif. Ici, vous avez la méthanol déshydrogénase, et voici donc le site actif. Du cérium. Mais comme vous allez le voir, à nouveau, parce qu'il y a une flexibilité de coordination et que les ions métalliques de type lanthanide peuvent accéder aux mêmes coordinations, on peut y mettre toutes sortes de métaux lanthanides là-dedans. Mais vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin combien ? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une coordination de 10, hein. C'est vraiment... impressionnant, on n'a pas l'habitude quand on fait de la chimie de coordination de penser que ceci est possible, mais ce sont des ions évidemment gros, et donc voilà toutes les coordinations. Et comme vous le voyez, à part un atome d'azote ici, c'est que des oxygènes, hein, c'est à cause de la dureté de ces ions, donc des carboxylates, une asparagine, et là, il faut mentionner ce cofacteur, qui est une quinone, voyez, qui est un cofacteur qui est utilisé dans d'autres systèmes enzymatiques, hein, et qui fournit, là aussi, vous voyez, c'est un ligand de type pincer, sauf que ce n'est pas organométallique ici, puisque tous les ligands de ce métal, tous les atomes ligands sont des hétéroatomes, azote ou oxygène, c'est pas la même chose que le NPN où il y avait un carbone, hein, donc je n'identifie pas ça comme un cofacteur organométallique. Mais c'est un pincer, hein, vous reconnaissez ceci. Voilà, donc ça, c'est une première découverte. Et en fait, voilà, ce que on voit tout de suite, hein, pour ceux qui connaissent la chimie de des hydrogénases de méthanol, eh bien, c'est que ce n'est pas la première méthanol déshydrogénase. Il y a des méthanols déshydrogénases qui sont connus depuis longtemps, mais qui sont à base de calcium. Et là, vous voyez une enzyme, une méthanol déshydrogénase à base de calcium, avec une coordination un peu moins forte, mais là aussi le même type de coordination et le même cofacteur PQQ. Cette enzyme-là, à nouveau, j'ai mis du lantane, mais ça peut être du cérium, donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est fonctionnel avec différents ions lantane. Oui, que dire de plus là-dessus ? Bon, à partir de là, vous voyez des résultats plus récents ont montré qu'il n'y avait pas que dans cet organisme-là, et il y avait d'autres méthanols déshydrogénases qui fonctionnaient avec différents types de d'ions, europium, lanthane, etc., et avec tout le temps le même type de structure que vous reconnaissez ici, avec toujours ces aspartates, glutamates, asparagines et PQQ. Du point de vue du mécanisme, ce qui est proposé, c'est évidemment que la clé, parce que vous voyez, c'est une réaction donc, d'oxydation, hein, de cet alcool en aldéhyde, c'est une réaction d'oxydation, évidemment, ce qui est proposé pour le moment, c'est que vous avez ici un groupement quinone, orthoquinone, qui est l'accepteur d'électrons, donc l'oxydant. Et donc la première étape est une oxydation du méthanol en aldéhyde. Le méthanol réduit la quinone, et donc vous voyez que vous avez ici l'équivalent d'une hydroquinone. Ensuite, vous avez une... Pour que ça cycle, il faut évidemment que cette hydroquinone soit oxydée en quinone, et ça, c'est proposé, enfin, c'est assez clair qu'il y a des systèmes enzymatiques qui catalysent l'oxydation de cette hydroquinone en quinone. Ce qui est proposé ici, c'est que ce soit des cytochromes oxydés. Ce n'est pas tellement étonnant. Là, on travaille à des potentiels redox, vous voyez, qui ne sont pas très élevés. Cette oxydation est relativement facile. Voilà, pour aller un peu plus loin, donc là aussi, beaucoup de discussions de mécanisme, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais voyez comment ça se passe. Ce qui est proposé, c'est que vous avez une déprotonation du méthanol. Donc évidemment, ici, quel est le rôle du métal, hein? Voyez que ici, le métal n'est pas un site dans lequel on va avoir de la chimie redox. La chimie redox, elle se passe sur le ligand, d'où l'importance de ce ligand. C'est une chimie redox basée sur le ligand. Mais le rôle du métal ici, c'est essentiellement un rôle d'acide de Lewis qui renforce le caractère électrophile de ce carbone, qui est, de tout le ligand d'ailleurs, qui est accroché à cet ion métallique, qui est un très gros acide de Lewis, donc qui polarise à mort les liaisons. Et donc ici, vous avez une attaque, donc déprotonation du méthanol grâce à cet aspartate, vous avez une attaque de ce carbonyle pour donner cet intermédiaire, et ensuite, par toute une série de transferts de doublés, vous avez relargage de l'aldéhyde ici. Ici, vous avez une structure avec le méthanol dans le site actif. Ça, c'est un autre mécanisme, mais bon, en gros, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Ce que vous devez retenir ici, c'est le fait que on a une chimie centrée sur le métal, sur le ligand, et que le métal joue un rôle de polarisation de liaison, d'activation du ligand organique redox. Voilà. En fait, il y a des organismes dans lesquels on a les deux. on a des méthanols déshydrogénases à calcium et des méthanols déshydrogénases à lanthanide. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour utiliser l'une et l'autre? Et en effet, donc, ces organismes-là, en effet, donc, oxydent le méthanol en aldéhyde à travers donc, cette chaîne de transfert d'électrons. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un cytochrome qui était l'accepteur d'électrons, puisque, vous voyez, le méthanol donne des électrons à travers cette enzyme-là qui utilise donc une quinone, un cofacteur organique redox activé par le métal, accepteur d'électrons, mais lui-même, une fois qu'il est réduit, il faut qu'il transfère ses électrons. Et ce qui est proposé, c'est qu'il y a une oxydase terminale qui récupère ses électrons. Mais le mécanisme est le même pour une enzyme à calcium. Et en fait, l'idée qui prévaut aujourd'hui, c'est que cet organisme qui a vraiment besoin de ce carbone, et donc d'avoir une méthanol déshydrogénase fonctionnelle, profite de tout ce qui est possible pour ne pas se retrouver en défaut d'activité méthanol déshydrogénase. Et donc, dans des situations, et c'est ça qui est montré ici, c'est dans des situations de déficience en calcium dans le milieu de culture, il suffit de très très peu de lanthanide pour déclencher la biosynthèse de la méthanol déshydrogénase à lanthanide de passer, et c'est ce qui est appelé aujourd'hui le switch lanthanide, c'est de passer d'un système dépendant du calcium à un système dépendant du lanthanide pour faire à peu près, pour faire la même réaction. Les switches métalliques, c'est pas nouveau, hein, ça existe, ça a été montré dans des tas de situations. J'en profite parce que juste pour vous montrer un exemple, un switch métallique qui est bien connu, ça existe dans des tas de systèmes enzymatiques, c'est le switch entre fer et cuivre. Dans l'évolution, vous savez, le fer et le cuivre, je l'ai déjà dit, ce sont des métaux qui sont très comparables, qui sont pas arrivés. Ils sont très comparables parce qu'ils font de la chimie redox à des potentiels un peu différents, mais en gros, ils font de la chimie redox. Et d'ailleurs, vous trouvez des réactions chimiques dans le monde vivant qui sont aussi bien catalysées par du cuivre que par du fer, que ça soit des monooxygénases, des dioxygénases, des systèmes de transfert d'électrons, enfin, etc., etc. Et en effet, les organismes utilisent, un même organisme utilise du fer et du cuivre pour faire la même chose, et évidemment, c'est une façon de répondre à la déficience d'un des métaux dans certaines situations. Ici, c'est juste pour vous parler à nouveau d'un système de type méthanotrophe, méthylotrophe, donc les systèmes à nouveau, les micro-organismes qui ont besoin, qui poussent sur du C1, méthane ou méthanol, méthane, ont besoin d'une enzyme qui est la méthane monooxygénase, qui transforme, donc l'étape avant, méthane donne méthanol, avant de faire méthanol donne aldéhyde, etc. Voilà, c'est tout à fait connu que les organismes qui sont des méthylotrophes ont deux enzymes de type méthane monooxygénase, qui sont d'une très grande complexité, qui sont encore très très étudiées, une à cuivre et une à fer. Et celle à cuivre, il ne s'agit pas ici de... Je montre cette image, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour mon discours, c'est juste pour dire qu'il y a plein de switch métalliques dans les systèmes vivants, et que ici c'est un cas où lorsque la concentration de cuivre baisse dans le milieu, il y a un système de secours qui est le système à fer. C'est exactement ce que je voulais raconter sur le fer et sur le lanthanide switch. Oui, alors pour finir, on est très très loin d'avoir tout compris, évidemment. Tout ça est nouveau, hein, pour les lanthanides. Donc comment les lanthanides, les ions lanthanides pénètrent à l'intérieur de la cellule, comment ils sont transportés, comment ils sont reconnus, une enzyme telle que la méthanol déshydrogénase reconnaît spécifiquement tel ou tel lanthanide, ou en tout cas un ion lanthanide et pas du calcium, comment le site actif est assemblé à nouveau, la biosynthèse du site actif, et puis toute la question, oui, en effet, du métabolisme des lanthanides, comment tout ça est contrôlé. Donc là, c'est des questions où on ne sait pratiquement rien. Et donc il y a simplement, vous voyez, des recherches très, très, très récentes. Donc Il n'y a pas très longtemps, a été découverte ce qui a été appelé une LAN moduline, par homologie avec la calmoduline. Alors, calmoduline, c'est une protéine qui est connue depuis très très longtemps, qui est parfaitement caractérisée. C'est une protéine de transport du calcium, très abondante, enfin, etc. Bon, il s'avère qu'il y a de très grandes homologies structurales, et voilà la LAN moduline. À nouveau, plusieurs sites de fixation des ions, et à nouveau une coordination ici, vous voyez, 3 et 3, 6 et 3, 9, coordination 9, uniquement oxygénée, tréonine, des aspartates et un glutamate. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ont été découvertes récemment, donc il y a probablement des protéines de transport des lanthanides. Il y a tout un tas de questions. Pourquoi ces choses-là sont intéressantes? Bon, d'abord, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Ces protéines sont capables de fixer aussi bien d'ailleurs des ions lanthanides que du calcium. Il y a des changements conformationnels de la protéine en réponse à la fixation de l'ion. Il y a des nombres de coordination donc plutôt élevés. L'AN-M, l'AN moduline, répond à des concentrations extrêmement faibles d'ions. Est-ce que ce sont des senseurs de lanthanides? C'est-à-dire, vu leur extrême sensibilité à la fixation des lanthanides, ça peut être des senseurs qui déclenchent des processus ensuite liés à la présence de la LAN moduline. Elle est surexprimée en présence de lanthanide. Et par contre, elle n'est pas essentielle, en tout cas, pour le moment. Alors, c'est extrêmement important de comprendre ça. À nouveau, je vous ai indiqué la difficulté de trouver des systèmes de complexation très très sélectifs de ces ions. Donc, si par exemple ici, et c'est le cas, l'AN moduline répond à des picomolaires d'ions. Donc, si on arrivait à comprendre ce qui fait la base de cette très grande sélectivité ou affinité pour des ions, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'idée d'utiliser ces connaissances pour peut-être mettre au point des chélateurs, des complexants de ces ions qui pourraient être utilisés dans une approche chimique pour l'extraction de ces ions et la récupération et le recyclage. Voilà. Dernière chose, c'est que se pose la question de savoir si, comme pour le fer, vous avez aussi, pas simplement des protéines, mais des petites molécules qui fixent ces ions. Pourquoi la question se pose? C'est parce que dans le cadre du métabolisme du fer chez les bactéries, on sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des sidérophores. Je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, mais les sidérophores, ce sont des molécules organiques, des complexants, qui ont la particularité d'avoir une très très grande affinité pour l'ion ferrique, fer 3. Beaucoup moins pour l'ion fer 2. Et donc ça a été dans... Moi, j'ai travaillé sur ces choses-là il y a 30 ans. C'était des sujets qui étaient très, très développés il y a une trentaine d'années autour de la complexation, autour du métabolisme du fer. Et les chimistes, évidemment, étaient très, très intéressés par cette chimie-là parce que ce sont, même si elles sont un peu grosses, ce sont quand même des petites molécules. Et il y avait toute la physico-chimie de ces molécules et des complexes de fer associés. Et ça, vous voyez, ce sont deux exemples très connus de sidérophores qui sont synthétisés par la bactérie pour aller chercher du fer très peu soluble. Vous savez, le fer 3 est très peu soluble. Et le fer, il existe sous forme d'oxyde, d'hydroxyde. Et les bactéries qui sont dans ces milieux se retrouvent confrontées à des concentrations de fer extrêmement faibles. Et donc, il faut, pour aller les chercher, des affinités extrêmement fortes pour le fer. Et donc, les bactéries ont développé ces molécules qui ont une des très, très grandes affinités, qui doivent s'opposer à la constante de précipitation du fer. Vous voyez, ce sont des ligands hexadentes. Ici, vous avez fonctions... donc vous avez un chélateur ici, un bidente, 3 fois 2, 6. Alors vous savez que le fer, dans le cas du fer, c'est différent des lanthanides, donc une coordination 6 est essentielle pour faire un bon ligand. Ici vous avez des catécoles, ça c'est des hydroxamates, excusez-moi, c'est des fonctions hydroxamates, ça c'est des fonctions catécolates. quand les protons ont disparu. Et donc, vous avez 3 fois 2, 6 aussi pour faire des complexes octaédriques du fer. Donc ça, c'est des ligands de très, très grande affinité. Et il y a tout un métabolisme de cela, c'est-à-dire que les bactéries synthétisent ces molécules. Vous voyez, et ici, vous avez le ferrisidérophore. Elles attrapent le fer qu'il y a dans l'environnement et puis à travers tout un cheminement complexe jusqu'à l'intérieur de la cellule, vous avez une libération du fer. On continue encore à discuter comment le fer qui est si fortement fixé sur ces sidérophores est finalement libéré. Il y a tout un tas de récepteurs qui permettent, ici voilà, vous voyez un exemple de récepteur de ferrisidérophore, vous avez le petit complexe qui va traverser ici ce récepteur, par exemple ici, pour passer dans le périplasme et puis d'autres canaux membranaires pour délivrer le fer. Bon, tout ça c'est très bien connu. Et donc évidemment, aujourd'hui, un axe de recherche autour du métabolisme des lanthanides, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a aussi des sidérophores, enfin des lanthanophores, hein, parce que sidéro, c'est pour fer. Et donc, il y a cette idée que peut-être le métabolisme des lanthanides, il ressemble un peu à celui du fer, à savoir que peut-être il y a des molécules qui sont excrétées, c'est-à-dire synthétisées par la bactérie, excrétées, qui attrape des lanthanides et ensuite qui pénètrent, puis ensuite qui sont transportés, par quel mécanisme, on n'en sait rien. Ici, est-ce que... Alors ici, c'est délivré à la méthanol déshydrogénase, ici il y a l'aline moduline, mais tout ça est très, très spéculatif. Donc il y a probablement tout un cheminement. Juste une chose, c'est, pour terminer, là aussi, chaque fois, je vous montre un exemple, mais là aussi, les chimistes, dès qu'ils découvrent un nouveau système, ça déclenche une recherche de catalyseurs bio-inspirés. Ici, il y a un exemple de ligand qui a été synthétisé, vous voyez, il y a peu de temps, en 2018, un ligand qui contient un groupement quinone, et ce ligand, alors, vous voyez, il y en a deux, ce ligand est capable de fixer du lanthane, un ion lanthane, cette molécule, ce catalyseur, a la possibilité de catalyser l'oxydation d'un alcool en aldéhyde. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais vous comparez la structure de cette molécule avec le cofacteur naturel. Bon, voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de... Enfin, j'en ai terminé sur cette partie-là. J'ai essayé de vous donner... de façon la plus exhaustive possible, ce qui m'est apparu comme très nouveau et à la fois intéressant du point de vue de la découverte de nouveaux cofacteurs métalliques. Mon message, c'est au fond que non, l'enzymologie n'est pas morte. On continue, enfin, non seulement à découvrir de nouveaux systèmes enzymatiques, mais en permanence, on découvre de nouveaux systèmes organométalliques, bio-inorganiques. Et ça ouvre tout un tas de questions. Vous voyez, j'ai terminé sur ces histoires de lanthanides. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, était impensable et qui est maintenant ouvre des tas d'horizons à la fois pour les chimistes, les biochimistes, mais aussi pour les microbiologistes, comme vous pouvez le comprendre. Voilà. Juste quelques minutes. Alors, je suis allé beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai de cette molécule dont j'ai déjà parlé une ou deux reprises, mais à nouveau pour vous montrer, là aussi, à quel point... sur un cofacteur organique, biologique absolument essentiel, on découvre tout un tas de choses nouvelles, d'activités enzymatiques nouvelles et de chimie nouvelle. Je vous invite à Chris Walsh, c'est vraiment un très grand nom de la chimie biologique, Et ça, c'est une revue extrêmement intéressante en 2018 où, en gros, il identifie ces 8 molécules, NADPH, isopentényl pyrophosphate, acétyl-CoA, l'oxygène, l'ATP, la S-adénosylméthionine, carbamoyl phosphate, UDP-glucose, comme les 8 molécules essentielles du métabolisme, autour desquelles tout se construit. Je pourrais... On pourrait faire un cours sur chacune de ces molécules, je ne vais pas le faire, vous comprenez certaines immédiatement, hein, que ce soit l'oxygène, que vous connaissez bien, l'ATP, peut-être que vous connaissez un peu moins le carbamoyl phosphate ou l'UDP-glucose et ce que ça fait dans une cellule. Bon, moi j'ai choisi parce que, comme vous le savez, par rapport à certains cours précédents, c'est une molécule sur laquelle on a pas mal travaillé, donc c'est la S-adénosylméthionine. C'est cette petite molécule qui est il est assez habituel de dire que cette molécule est présente sur la planète depuis très très longtemps, depuis le début de la vie, d'une certaine façon, et que c'est un descendant d'un monde ARN protéine, puisque vous avez ici l'association d'un ribonucléoside avec un acide aminé qui est la méthionine. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de bien noter la particularité de cette molécule. C'est un sulfonium S+, et c'est ça qui va donner toute la richesse de cette molécule. La S-adénosylméthionine est connue depuis très très longtemps comme étant un agent méthylant. Lorsque la nature veut faire des réactions de méthylation, je veux dire dans la très très grande majorité des cas, c'est la S-adénosylméthionine qui est le donneur de méthyle. Évidemment, avant d'avoir la SAM, il faut le synthétiser, donc il y a des SAM synthases. Mais en gros, vous voyez, à cause de ce sulfonium, ce méthyle-là est extrêmement électrophile, et donc n'importe quel nucléophile peut attaquer ce méthyle et libérer la S-adénosyl homocystéine, qui est celle-là, après avoir méthylé le nucléophile. Puis ensuite, évidemment, ceci est une sorte de déchet de la réaction, il faut le récupérer, c'est ce que fait toujours le vivant. Il y a toute une série de systèmes enzymatiques, et en particulier cette enzyme extrêmement importante, qui est la méthionine synthase, qui synthétise la méthionine à partir de l'homocystéine. Bon, et grâce à cette réaction-là, et je n'en dirai pas plus parce que tout ça est très très bien connu, c'est pas nouveau, et je ne veux m'attarder que sur des choses nouvelles, ces nucléophiles, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des polymères, ça peut être de la méthylation d'ADN, de la méthylation d'ARN, de la méthylation de protéines, de lipides, de polysaccharides, enfin il y a tout ça. Et ça peut être aussi des petites molécules, des acides aminés, des sucres, des nucléosides, etc. Donc tout ça est parfaitement bien connu. En 2004, avec Mohamed Atta et Muliez, on avait découvert cette idée. Pour la première fois, on l'exprimait de cette façon-là, que cette molécule, en fait, n'était pas utilisée que pour le méthyle. C'était une sorte de molécule genre, vous savez, comme le cochon, quoi. C'est-à-dire que tout est bon dans le cochon, on prend tout. D'ailleurs, on avait cité dans le papier à l'époque, alors le titre c'était Nothing Goes to Waste, et on avait cité cette chanson de Brassens, Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. Voilà. Et donc c'était un peu cette idée que cette molécule était absolument extraordinaire. Ce n'est pas souvent le cas, on pourrait se demander pourquoi, parce que la nature fait usage extrême de la petite quantité de molécules à sa disposition, mais là, c'est le cas. Et donc, la prochaine fois, non seulement je vous dirai où est-ce qu'on en était en 2004, au niveau de comment on utilise la SAM, et vous raconter tout ce qui est arrivé après, et notamment tout récemment, en termes d'utilisation de la SAM. Juste ici, et je termine sur cette dia, vous voyez que donc ce méthyl est utilisé pour faire des méthylations, mais ça peut être utilisé pour faire des groupements méthylènes après réaction sur une double liaison, la partie amine, juste le groupement amine est utilisé ici dans cette réaction. Le ribose de la SAM se retrouve ici, dans un ARN, modification d'une base d'ARN. La partie carboxylate 2, 3, 4 se retrouve dans cette molécule qui est l'aminocyclopropane carboxylique acide, qui est une molécule extrêmement importante chez les plantes. Un autre dérivé de ce groupement-là est ici, les N-acyl-homosérine-lactone, qui sont des molécules extrêmement importantes sur ce qu'on appelle le quorum sensing, c'est la façon dont les bactéries communiquent. Vous avez aussi, ce groupement se retrouve dans des modifications d'ARN, de base d'ARN. Après des carboxylations, ce truc-là se retrouve aussi dans la spermidine. Bon, voilà. Tout un tas de tous les morceaux, presque tous les morceaux de cette SAM, ont constaté à ce moment-là qu'elle se retrouvait dans tout un tas de métabolismes. Et je vous raconterai la prochaine fois tout ce qui est arrivé depuis et tout récemment sur des nouvelles chimies de SAM qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.